Alors aujourd'hui, je vais commencer par ce que je n'aime pas faire avec les Écritures. Et qu'est-ce que je n'aime pas faire avec les Écritures? Eh bien, c'est compter. Je suis incompétent dans cette science, on y mettra des guillemets ou pas, qu'on appelle la gématrie, qui désigne un procédé fréquent dans la Bible et chez les pères de l'Église, qui consiste à relier un nombre à un mot dont on additionne les valeurs numériques et symboliques de chaque lettre. Alors je ne sais pas si je n'aime pas faire ça parce que je suis incompétent ou si c'est l'inverse. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous? Nous avons un nombre de poissons, 153. Jean aurait pu continuer à écrire beaucoup, énormément, plein de poissons et en rester là. Mais était-il obligatoire qu'il précise 153? Dieu sait si ce nombre a obsédé les commentateurs depuis l'Antiquité. Alors nous allons examiner quelques hypothèses et ensuite nous retournerons à notre récit. Un récit assez amusant, vous allez voir, puisque c'est un fait narratif qu'après la résurrection du Christ, tout devient beaucoup moins dramatique. Et c'est normal. Et je pense que les prédications dans ce bref temps liturgique et dans certaines paroisses particulières où seuls d'heureux vaillants ne sont pas partis en vacances, dans ce bref temps liturgique, les prédications doivent adopter cette humeur post-résurrection, une moins dramatique humeur. Alors allons-y, pourquoi 153 poissons? Alors on va balayer rapidement la première hypothèse, pragmatique, et qui a ma faveur? Pourquoi? Parce que les pêcheurs en équipe comptent les poissons pour faire ensuite le partage. Et que ce jour-là, il y en avait 153. Pourquoi le dire? Pourquoi Jean, l'auteur du texte, le dit? Eh bien, peut-être pour envoyer un signe de véracité, de précision. C'est un peu comme si vous racontiez à un ami un moment de votre journée. Vous êtes allé dans un bar prendre un café et là, il y avait des jumeaux, attablé. Un peu étonnant, certes, mais pas non plus. Et votre ami ne va pas vous dire pourquoi des jumeaux attablés. Ben non, pourquoi quoi? Ils étaient là, c'est tout. Pas de pourquoi, juste je te raconte. Ok. Les gens parfois ont du mal à voir les évangiles comme des comptes rendus de faits. Et je les comprends, bien entendu. Alors que les évangiles eux-mêmes le prétendent, et parfois explicitement comme Luc le fait au début de son évangile. Ils prétendent relater des faits. Alors, on sait bien que ça va bien au-delà de ça, que de raconter une histoire où je rentre dans un bar, il y a deux jumeaux, je m'en vais, hein, ça c'est clair. Et parfois, malgré tout, il y a peut-être un endroit, dans un texte, quelque chose qui n'est pas symbolique, pas métaphorique. Juste un fait. Alors, suite de cette hypothèse pour dériver vers quelque chose d'un peu moins factuel, 153, ce n'est qu'un nombre, certes, mais c'est beaucoup. D'autant plus que le texte précise que c'est 153 gros poissons. Et malgré ce nombre, le filet ne craque pas, dit le texte. Et là, c'est un appel à la référence pour les lecteurs. Il ne craque pas comme il avait tendance à le faire dans un autre texte de pêche spectaculaire dans l'évangile de Luc. J'appelle ça plutôt spectaculaire que miraculeux. Et il y a une hypothèse sous-jacente qui serait de suggérer la malignité de l'auteur qui flanque un nombre en plein milieu d'une histoire pour attirer l'attention en espérant ensuite que les lecteurs finissent par s'intéresser au reste. Un appât, quoi. Mais c'est raté, Beaucoup de gens se sont quasi exclusivement intéressés dans ce texte à ce nombre. Et moi-même, je semble plongé dans ce piège, à pieds joints, je ne sais pas comment on dit, à pieds nus, enfin bref. Et je le fais, entre autres, pour que personne à la sortie du culte, qui aurait bien écouté l'évangile qui a été lu par Jean-Marie, que personne ne me dise, si je n'avais pas parlé de ça, « C'est intéressant ce que vous avez dit, tout ça, la pêche, Pierre, l'aller-retour, tout ça, les poissons grillés, tout, mais pourquoi n'avez-vous pas évoqué le chiffre 153 ?» Alors, pour éviter de me retrouver dans cet univers parallèle, où cette personne me posera cette question, je continue. Au IVe siècle, Saint Jérôme, a prétendu savoir que les zoologistes grecs de l'époque connaissaient 153 variétés de poissons, au total. Ce nombre, selon Jérôme, signifierait, dans ce cas, l'universalité de l'Église. Toutes les nations de la Terre se retrouvent dans les filets de Pierre, celui qui donc avait été considéré comme la tête de l'Église, le chef. Si cette métaphore est vraie, elle devrait l'être encore aujourd'hui, et le filet aujourd'hui devrait donc contenir, toujours sans craquer, plus de 30 000 poissons, paraît-il. Mais alors là, Pierre serait aujourd'hui le commandant d'un navire de pêche industrielle. Mais cela signifierait que cette église a non seulement grandi, ce qui est vrai, mais qu'elle s'est beaucoup diversifiée, 30 000 espèces différentes de chrétiens. Ce n'est pas faux non plus, mais c'est un peu vain, non? Un étudiant en théologie d'aujourd'hui qui emploierait de tels arguments redoublerait sans doute sa première année, et personne ne l'aurait appelé plus tard Saint Jérôme. Heureusement, Jérôme a eu d'autres vertus, dont celles qui ont fini par le faire considérer comme le patron des traducteurs, et c'est grâce à lui finalement que, par l'intermédiaire du latin, tout bien réfléchi, la Bible est arrivée jusqu'à nous. Toujours au IVe siècle, Saint Augustin, découvre dans son commentaire de Jean que 153, vous vous demandez où vous êtes arrivé là ce matin, non? Mais c'est un texte de Jean, il y a un chiffre, c'est 153 poissons. Saint Augustin découvre dans son commentaire de Jean que 153 est la somme de tous les nombres compris entre 1 et 17. 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 17 égale 153, ce qu'on appelle un nombre triangulaire. C'est-à-dire un grand triangle composé de plein de petits triangles dont la somme des points à l'intérieur et à l'extérieur est de 153. Je vous passe les détails. Et pour dire cette petite phrase, je vous passe les détails, j'ai dû avant moi passer 3 heures pour aboutir au fait que c'était trop compliqué à expliquer en prédication. Mais Augustin note en plus, et là c'est plus facile, que 17 c'est 10 et 7. Et puis, il extrapole. Le 10, pour lui, symbolise l'ancienne alliance. C'est intéressant, malgré tout. Hein, symbolise l'ancienne alliance. Et comme ça, on apprend des choses. 10 paroles de la Genèse, créatrice. Les 10 plaies d'Égypte. Les 10 témoins choisis par Bose, dans le livre de Ruth. Donc, un ancêtre de Jésus, finalement. Et le 7 symbolise, selon Augustin, toujours la nouvelle alliance, comme les 7 paroles de Jésus à la croix, les 7 signes dans l'évangile de Jean, les 7 pains et corbeilles lors de la multiplication, les 7 diacres d'acte 6, et selon Augustin, par ces 2 chiffres, les juifs et les païens sont réunis à un seul corps représenté par le nombre 153. J'ai noté par ailleurs sur un site mathématique conçu sans doute par des nerds fanatiques, que 153, en fait, n'était pas exactement un nombre triangulaire. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais qu'il est en revanche un nombre dit narcissique. Ça m'a amusé. Un nombre narcissique est la somme de chaque chiffre de ce nombre, puissance de la valeur du nombre de chiffres de ce nombre. En français, 1 puissance 3 plus 5 puissance 3 plus 3 puissance 3 égale 153. Il y a en effet beaucoup de narcissisme dans toutes ces spéculations. Et puis, plus bibliquement, Et plus sérieusement, beaucoup de commentateurs mettent en lien notre texte du jour avec un passage d'Ézéchiel que je vous lis, que je me fais un plaisir de vous lire. Ézéchiel chapitre 47. « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. » Certains se sont amusés à faire le comptage du mot En-Gedi, mais là aussi, je ne vais pas m'y intéresser. En-Gedi, c'est une cité qui est localisable en Judée. Et il est probable que En-Eglaïm, qui est cité dans ce texte, se trouve en dehors de la Judée. On aurait donc ici une référence à l'universalité des Juifs vers les païens, toute la terre habitée. Et voilà donc, selon des commentateurs qui ne s'intéressent pas que au triangle, voilà la prophétie de l'acte de pêche de la fin de l'évangile de Jean. Et pour finir sur ce thème, quelque chose qui m'a un peu amusé, dans ce qu'on appelle le langage urbain utilisé dans les messageries SMS ou autres. 153 signifie en anglais « I adore you ». En vertu du nombre respectif de lettres dans chacun de ces mots, « I », une lettre, etc. Et en français, cela donne 115, « Je t'adore », qui est aussi le numéro que connaît bien le diaconat, le numéro d'urgence sociale. Il y a peut-être un lien, mais que je vous rassure, je ne vais pas explorer. Fin de la partie arithmétique de cette prédication, et la seconde partie de cette prédication sera plus courte. Revenons à ce récit que j'aime beaucoup et qui recèle encore plein d'astuces. Mais comme j'ai déjà beaucoup mordu sur le temps qui m'est rituellement imparti, je n'en évoque que quelques-unes. Quand, par exemple, Jésus qui apparaît dit « Mes enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Alors parfois, vous rechignez à lire cette phrase comme vous avez envie de l'entendre. « Mes enfants, vous avez tort de renier ce premier sentiment. » Pas la peine d'en rajouter, c'est une phrase très originale. « Mes enfants, dit Jésus à ses disciples, avez-vous quelque chose à manger ?» Déjà, oui, cette façon de leur parler est très post-résurrectionnelle. « Mes enfants, on dirait que toute la tension est tombée, que la mort ayant été vaincue, il n'y a plus rien de dramatique, et c'est normal. Si la mort est vaincue, que reste-t-il de dramatique ?» Le narratif, ici, n'emploie plus du tout la méthode de la tension. Alors, les enfants, à des gens quand même qui viennent de perdre leur maître et tout leur espoir. Alors, les enfants, ça se passe bien ? Et ce, avez-vous quelque chose à manger ? Jésus n'a jamais dit ça avant. Et eux, qui ne le reconnaissent pas, surtout avec ce type de parole et aussi dans la pénombre, eux qui n'avaient rien pêché toute la nuit, à cette question répondent « Non, on n'a rien à manger. » Là, Jésus leur dit d'essayer encore. Pierre alors s'aperçoit qu'il s'agit bien de Jésus et nous découvrons quoi ? Que Pierre était nu. Et qu'étrangement, il se rhabille pour se jeter à l'eau. Ce comportement aberrant étonne, comme étonne aussi cette nudité préalable de Pierre. La même nudité que celle d'un jeune homme dans Marc. Vous allez relire aussi au chapitre 14.
Pendant la passion, un jeune homme,
identifié comme un disciple de Jésus, qu'on tente d'arrêter, mais qui réussit à s'échapper en délaissant sa tunique pour s'enfuir tout nu. Comme si ces deux disciples se retrouvaient nus après la croix, après que tous leurs espoirs avaient été crucifiés. Ici, c'est Pierre, avant qu'il reconnaisse Jésus. Et nous trouvons aussi ici une évocation de la nouvelle naissance où, comme dans la naissance biologique, on arrive nu et puis après, on revêt des vêtements qui, par définition, sont nouveaux. Et on se jette à l'eau, éventuellement, pour se faire baptiser, comme Pierre. Mais le plus drôle ici, c'est vraiment quand les disciples reviennent de leur pêche. Et ils reviennent de leur pêche, pas bredouilles cette fois, et qu'ils voient Jésus finalement prendre son petit déjeuner, car ce sont les premières lueurs de l'aube. Jésus, en effet, dit le texte, s'est installé, enfin il ne le dit pas comme ça, mais j'ai envie de le dire comme ça, s'est installé un petit déjeuner composé de pain et de poisson qu'il fait griller sur un feu de braise. Vous entendez ? Je vous avais demandé si vous aviez à manger, d'accord ? Mais je ne vous avais pas dit que moi, j'avais à manger. Donc en fait, si nous comprenons bien, il y avait plus que 153 poissons. Et ce n'était donc pas la peine de faire depuis l'Antiquité des spéculations sur ce nombre, car ce nombre n'était pas la totalité de la prophétie. Il fallait lire à la suite du texte. Et il y a déjà plus, en fait. Il y a déjà autre. Il y a déjà un autre que la défaite. Il y a déjà un autre que de bosser toute la nuit et de rentrer bredouille. Il y a déjà un autre que la mission, représentés par ces pêcheurs qui vont collecter des poissons. Il y a déjà un autre que le retour de la mission, même si cette mission est accomplie. Il y a déjà un autre que tout ce travail. Il y a déjà ce rivage où Jésus nous attend pour un petit déjeuner bien mérité. Il y a ce temps de repos. C'est presque la fin de l'évangile. Et en tout cas, c'est le dernier événement marquant de cet évangile de Jean. Et c'est très rassurant et très beau que tout ça se termine par un petit déjeuner de pain braisé et de poisson grillé sur un rivage après cette longue nuit. Amen.